29 janvier en soirée. Des prises de parole seront retransmises en ligne, en direct. Des événements d'éducation et de sensibilisation sur le vivre ensemble seront également organisés en amont de la commémoration. Toutes les informations sont sur la page Facebook du Centre culturel islamique de Québec. Pour rappel, depuis janvier 2021, le 29 janvier est officiellement une journée nationale d'action contre l'islamophobie. La prochaine vague liée à la COVID-19 ne sera probablement pas causée par une mutation du virus, mais par une déferlante de problèmes en santé mentale qui risque de faire sauter la digue du système public. La CSN salue donc la volonté du gouvernement d'investir 361 millions de dollars de plus en santé mentale, mais remarque que certains problèmes d'inefficacité persistent. Nous avons besoin d'une refondation de nos services en santé mentale, et il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard, affirme Jessica Goldschlenger, vice-présidente de la CSN. Celle-ci recommande notamment que l'on nomme une personne ou une équipe qui s'assure que chaque patient ou patiente qui consulte en santé mentale puisse être suivi pour l'ensemble de ses problèmes dans un court délai. Quelques 16 recommandations sont par ailleurs sorties de la consultation de 2021 menée par la CSN, telles que la mise en place de formations pour tous les intervenants et intervenantes en soins. Un des meilleurs moyens pour réduire l'ampleur de la détresse psychologique dans la population du Québec serait d'agir en amont sur des facteurs de stress importants comme la pauvreté, le manque de logements abordables ou la violence envers les femmes. Sekaya et Pêche Sherpa, organismes de soutien aux personnes marginalisées, vous invitent à vous exprimer alors que nous vivons une nouvelle vague de Covid. Que ce soit de façon théâtrale ou picturale, laissez le virus vous inspirer. Vous pouvez écrire une courte chanson, un poème ou encore un slam et l'envoyer à julietremblay@commercialinfopêche.org. Vous pouvez aussi vous exprimer visuellement sur les murs de la galerie de Sherpa. Contactez andreane.parent@commercialinfopêche.org. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, passez une agréable journée à l'antenne de Sekaya 88.3 FM et sekayafm.org.
C'est qui le boss, motherfucker, that's me. Fais ça, c'est quand je parle, j't'ai pas demandé d'avis. Que t'es dans tout, yeah, yeah, what's good. Comment tu veux, j't'écoute, t'as de la marque dans le bouche. C'est qui le boss, motherfucker, not you. Tu peux me corriger qu'avec autotune. Chacun son business, mais ton business, j'm'en fous. Chacun son business, mais ton business, j'm'en fous. C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie. Qui genre de cash,
Marie. Qui est son back. C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son back,
j'arrive.
C'est qui le boss, motherfucker, c'est Marie. Puis cite pour se faire des amis,
non.
C'est ma propre, on finit par se saler, hey, hey. Après avoir passé la mope toutes ces années, hey. Qui gère le cash, motherfucker, that's me. Je crée des emplois, bonnes pour l'économie. Vous parlez too much, j'essaie juste de nommer l'employé du mois pour me faire pardonner,
hey.
Je pars en cachet et je braille en cachet. Je vis dans un carré car j'aime carré coché. Si tu me devances ou dada coché, il me lance des roches, aïe aïe ricochet. C'est pas dur à engager mais yeah, j'engage. Mais que c'est pas dur à catcher comme un langage. Je profite de l'emploi et quand il y a longueur, si je vous crie après c'est de bon cas.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son bac,
j'arrive.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son back,
j'arrive.
Toc toc toc, qui est là,
là,
là qui,
là qui,
là qui est le boss,
là qui est le boss,
hey hey hey.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui est son boss,
j'arrive.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son boss,
j'arrive.
Yeah 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 yeah.
Papa pur.
c'est qui le boss?
Mon beau bébé d'amour, je t'aime. Ok. On va le starter, ok?
Let's go, let's go.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues.
Bonjour et bienvenue à l'émission de Jean-Denis Perreux sur les ondes de CKIA FM 88,3. Je m'appelle Larry Hodgson. Et on va avoir une petite émission aujourd'hui. Notez que nous avons des complications. Je pense pas que nos habitués sur Facebook peuvent nous rejoindre ce matin. Mais on fait de notre mieux. Et d'ailleurs, Michel Bédard, qui fait normalement le lien avec Securia, est absent aujourd'hui. Et c'est Marlène Bordelot qui gère. Et que je vois pour une fois.
Bonjour, Larry.
Dans son studio à Securia à Québec. Bon, voilà. Donc, nous sommes probablement moins nombreux cette semaine parce qu'on n'a pas nos amis Facebook, je pense. Mais au moins, je suis là, minimum. Et vous aussi, j'espère. Maintenant, côté température, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Il n'y a rien à faire. Mais, dans le domaine du jardinage, on se habitue à tout. Là, on fait ce qu'on vit là, actuellement. C'est pas super, super froid. On trouve que c'est super froid. Mais il y a tous les hivers. On a des périodes de froid extrêmes. Donc, c'est pas anormal, ça. Ce qui est un peu surprenant, c'est la durée. Ça dure plutôt que disparaître deux, trois jours. On est dans la deuxième semaine de température. Pas mal plus froid que le normal. Il reste quand même que il y a une super anormale pour les plantes. Les plantes de zone 4 sont bien correctes dans la zone 4. Les plantes de zone 3, c'est pas si extrême que ça. C'est pas comme si on avait rendu au moins 50. Donc, ça va, ça devrait bien aller. Et au moins, il ne fait pas chaud, parce que vous savez, l'hiver, la pire chose pour les plantes, c'est un dégel suivi de gros froid. Donc là, au moins, on est dans le froid, puis on y reste. Là, il va faire un peu plus doux les prochains jours, puis même, peut-être le mercredi prochain, doux, moins 3 à Québec. Mais on parle de ça, là. C'est quand même plus froid que le normal, c'est pensé. Et les plantes vont survivre à ça. Je suis dans ma couche froide. Il fait actuellement. Vous pouvez vous le montrer. 1.3 degrés. C'est le couche-froid, donc, sans aucun chauffage. C'est là où je mets mes gros marins, agapantes, autres plantes qui aiment un hiver frais, mais pas super froid. Donc, c'est ça que je ils sont là, je les vois d'ici, parce que ma couche-froid donne sur la fenêtre. Mais il reste quand même que, malgré le froid extrême à l'extérieur, avec la neige pour protéger et les structures, ça reste très raisonnable. OK, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est des messages ou des questions, parce que je ne vois pas, moi.
Pas encore, Larry, parce qu'on est dans un... On est sur la page Facebook de CKIA présentement, puis c'est pas l'endroit où tu es habituellement.
Et...
Donc, on va peut-être laisser la chance aux gens de te trouver. Est-ce que tu as eu l'occasion de mettre un petit mot sur ta page de jardinier paresseux?
Et puis mettre un mot sur Facebook jardinier paresseux. Donc, au moins, ils sont avisés que ça n'a pas fonctionné. J'ai quand même quelques questions que je garde en réserve que je peux utiliser. Fait qu'on va faire ça en attendant. Puis s'il y a des questions, il faut me le dire parce que moi, je ne le saurais pas.
Je vais te faire donc, signe.
J'ai une question ici de Anne. Elle dit, j'ai une édifice diabolo et je remarque à deux endroits que les nouvelles pousses sont vertes. De quoi cela dépend-il? Ça, dans un cas comme ça, c'est ce qu'on appelle une réversion. Réversion parce que ça retourne la forme normale. Le physocarpe diabolo est un arbuste, un assez grand arbuste, au feuillage propre foncé. C'est sa caractéristique principale, c'est pour ça qu'on le cultive. Mais à l'origine, c'était un certain nombre de physocarpes de tous les jours. Le physocarpe est un arbuste, courant au Québec, dans la nature, dans l'Est de l'Amérique du Nord, d'ailleurs, partout, c'est pas rare, mais les feuilles sont vertes. Donc, diabolo, cette sélection-là, est une feuillage propre. Par contre, quand, de temps en haute, la nature retourne à la normale et ça arrive qu'une tige retourne à la forme verte habituelle. Ou des fois, vous allez même avoir, pendant quelques temps, une tige où les feuilles sont partiellement vertes et partiellement propres. Toutefois est-il, si vous laissez ça sur place, ça va finir par dominer. Ça va prendre trop de place. Et si vous cherchez une arbuste propre pour l'air, vous allez tranquillement avoir des grandes sections vertes qui vont apparaître. Parce que la partie verte, la partie d'origine, la couleur d'origine est généralement plus forte que le reste. Donc, idéalement, vous le taillerez pour enlever les parties entièrement vertes. Et c'est pas rare. Quand vous regardez quelques haies ou quelques arbustes de physocarpe, diabolo, on voit très souvent une tige ou deux ont commencé à retourner à la forme normale. D'ailleurs, c'est pas juste les physocarpes. Ça arrive avec beaucoup d'autres plantes que la plante commence par une variété de couleur exceptionnelle ou de forme exceptionnelle et retourne à la normale. Ça s'appelle toujours une réversion dans ce cas-là. Voilà pour la réponse à la question d'Anne. Maintenant, il y a Hélène qui écrit, j'ai pinécli sur tige devant la maison cet été. La question est, quel est votre avis pour l'hibernation de l'arbuste? Vais-je couper que les fleurs, abattre à 5 pieds du sol, professionnel pour l'hiver? Mon arbuste a de magnifiques fleurs blanches qui ont tourné au brun pâle. Hélène. Donc, on voit bien que les questions étaient posées l'automne dernier, mais en tout cas, peu importe. Dans un cas comme ça, hydrangée pinéculée, c'est un grand arbuste. Vous le connaissez par cet hydrangée avec des fleurs en forme de cône qui sont blanches au début, deviennent plus et plus roses et finissent par brunir avec le froid. Et donc, je vois un message sur mon site web c'est quelqu'un qui s'inquiète parce que, comme le médecin ne peut pas. En tout cas, je n'y peux rien pour ça. Donc voilà. Pour cet arbuste-là, vous n'avez pas nécessairement rien à faire pour le faire hiverner. C'est parfaitement rustique, c'est zone 3, même zone 2. Donc, la plante pousse très, très bien chez nous. Par contre, la première année, ou peut-être la deuxième aussi, ça se peut que les fleurs séchées, qui font en partie le trait de la plante, qui sont jolies jusqu'au printemps, ça se peut que ce soit un peu trop lourd pour un jeune hydrangé de l'équilibre subtil. Donc, ce n'est pas utile de supprimer les fleurs séchées à l'automne. Et là, vous pouvez avoir, vous allez alléger un peu la plante et moins de risques de dommages. Oui, Marlène.
On a une première question, Larry. Une question de Frédéric Martel. Il dit bonjour. Pouvez-vous nous parler du chou marin, Crambe maritima? Est-ce un bon comestible? Comment ça marche pour sa culture, etc.? Merci.
OK. Ben, là, le crambe maritime ou chou marin est une plante vivace originaire d'Europe, notamment des régions côtières. C'est une plante qui pousse dans un sol alcalin à l'origine. Ce n'est pas trop d'importance parce que la plupart des plantes qui tolèrent les sols alcalins n'ont pas besoin d'un sol alcalin. Et c'est son cas. Donc, il peut pousser dans un sol tout à fait ordinaire. Et dans notre région, ordinaire veut dire acide, un peu acide au moins. Donc, il est parfaitement capable de vivre ça. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est une assez grosse plante, de couleur bleu propre un peu. Très, très jolie. Hein? Au début du printemps, c'est propre. Ça devient plutôt bleu, bleu crêle l'été. Belle grande feuille, très épaisse. Et côté cuisine, je suis moins expert. Mais c'est comme un chou. C'est un parent du chou. Il s'agit de faire cuire. Ça va avoir le même goût et la même odeur. Donc, il va falloir penser que ça va peut-être un peu fort. Mais c'est un peu normal pour une plante sauvage. Maintenant, côté culture, c'est une plante vivace. Normalement, on achète une plante. On peut y trouver des semences, mais c'est plutôt rare. Mais on peut acheter des plantes. Et il faut les planter au soleil, dans un sol bien drainé. N'oubliez pas de lui laisser de l'espace. Alors, ce n'est pas une plante qui a l'habitude de la compétition. Ça pousse d'habitude sur des falaises, des endroits semblables, où il y a beaucoup de soleil, mais pas beaucoup d'autres plantes pour couper la lumière. Donc, ça veut prendre beaucoup de lumière pour pousser. Ils forment une plante à peu près, moi, je dirais, 40-45 cm de large, et peut-être 30 cm de haut. Au printemps, donc, feuillage propre au début, bleu craie plus tard, et après ça, une floraison. Ça fait une belle floraison au centre, comme une dôme, plus ou moins. Les fleurs sont blanches, très nombreuses, et ça sent le miel. Donc ça, c'est intéressant, à ce niveau-là. Par la suite, les fleurs donnent des fruits ronds, des capsules ronds, qui sont attrayants, moi, je trouve, en tout cas. Et le problème est, par contre, n'en faites pas beaucoup. Il me semble que ce serait intéressant que quelqu'un fasse une sélection. C'est une variété qui fait plus de ces petits fruits-là, parce que c'est une plante drôlement intrigante avec son feuillage bleu craie et ses petites boules vert pâle un peu partout sur la plante. Donc, c'est pas intéressant. Mais chez moi, en tout cas, j'ai seulement quelques boules, en fait. C'est comme mon arbre de Noël n'est pas très décoré. À peu près ça. En tout cas, c'est joli à ce niveau-là. La plante finit par faire, avec le temps, des rejets, des repousses à une certaine distance. Donc, une genre de rhizome souterrain qui fait un gros bébé plante ailleurs, mais pas au point de devenir envahissante. Ce n'est pas une plante envahissante. Elle va beaucoup trop lentement pour ça. Donc, et cette plante rustique jusqu'en zone 3. Donc, avec ça, je pense que vous avez assez d'informations, sauf côté cuisine. Et je laisserai ça à quelqu'un d'autre.
Tiens, Larry, je vais en profiter pour poser mes questions. Pourquoi pas, hein? Ça fait longtemps. C'est mon tour. Larry, j'aimerais qu'on parle de cochenille à carapace.
Oui.
J'ai un chefflera du nom de chef. Puis je sais que d'ordinaire, les gens vont dire, t'as des cochenilles, jette ton chefflera, occupe-toi pas de ça. mais je veux sauver toutes les plantes tout le temps. Donc, je l'ai mis, je l'ai lavé au savon insecticide, je l'ai brossé et tout, là, je l'ai mis en punition. Et puis, je l'ai refait plusieurs reprises. Les bestioles s'en vont pas. Est-ce que ce serait une bonne idée de lui faire une taille sévère?
Habituellement, parce que, évidemment, j'ai une longue histoire de combat contre les cochenilles carapaces et les cochenilles farineuses. Et pendant 30 ans, j'essaie de me battre. Je ne jetais pas les plantes. Je les traitais. Et à force de le faire, j'ai maintenu les cochenilles en vie pendant 30 ans. Super. Et là, j'ai décidé que c'est fini, mais je jette. Et c'est beaucoup plus facile, ma vie, du prix. Quand même, comme deuxième possibilité, moi, je enlèverai tout le feuillage, au complet, toutes les feuilles. Et je le couperai, je ne sais pas quelle hauteur qu'il peut avoir, je le couperai au moins de moitié. Et là, le pâté qui reste, le même traitement. Nettoyer avec du savon, me rosser pour enlever ce qu'il peut avoir, le mettre quand même en isolation. Il va reprendre, bien sûr. Mais est-ce qu'ils vont reprendre avec ou sans cochenille? Moi, je dirais, les chances semblent bonnes de réussir comme ça. Parce que les cochenilles sont fixées d'habitude dans l'endroit. Et si vous les brossez, il n'y en aurait pas. Il n'y a plus de cachette, puisque vous allez enlever les feuilles. Et souvent, ça se cache à la selle des feuilles. On ne peut pas les atteindre. Donc, il y a de très bonnes chances que vous réussissez. Mais il reste quand même que... Et pas d'autres plantes qui en ont. Fait que, il faut faire attention que ça ne revienne pas.
Comment est-ce que ça peut entrer dans une maison, ça? Parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles plantes et c'est apparu spontanément. Est-ce que ça pourrait, par exemple, arriver dans des sacs d'épicerie?
Non. Non. Il faut que ça arrive sur une autre plante. Ou encore, tu pourrais toucher une plante à l'extérieur, pas à l'extérieur de la maison. Parce que le genre de cochenille, la carapace dont on parle, c'est une variété tropicale. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de dehors. Ça vient de quelque chose à l'intérieur. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Mais ça se peut que ce soit très longtemps. C'est là. Des fois, on ne voit pas où ils viennent. Les gens qui ne connaissent pas les cochenilles ne sont pas habitués de regarder les petites bosses, voir s'il y a quelque chose-là. Donc, ça se peut que c'était déjà là. Mais ça aurait été transporté il y a longtemps. Pour une plante infestée. Mmh. Peut-être une plante qui n'a pas duré, mais qui était là assez longtemps pour transmettre son insecte.
Mmh. Puis une dernière sous-question, est-ce que ça vaudrait la peine de la dépoter et puis de laver les racines et puis de changer de terre puis de laver le pot, comme on fait pour les cochenilles farineuses, ou c'est un petit peu extrême?
Non. Ça, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Okay. C'est pas exactement la même. Si on proche parent, mais les cochenilles farineuses sont plus voyageuses et en plus pondent leurs œufs ailleurs. Donc, c'est sûr qu'ils sont difficiles à frapper à ce niveau-là. Le cochenille des carapaces, ce n'est pas la même chose. Donc, l'insecte maman, qui a comme un dôme dur sur le feuillage, et sous ça, elle pond ses œufs. Et les larves, à nature, les nymphes sont assez vieux, ils partent à parcourir, ça dure 2 jours. Il se fixe quelque part. Donc, les chances sont beaucoup moindres. Ils n'auront pas vivre dans le terreau. Ce serait... Il faudrait être terriblement malchanceux de faire la taille le jour même où les nymphes ont décidé qu'ils traversaient la terre ou qu'ils grimpaient sur un pot à côté. Ce serait vraiment, vraiment peu probable. C'est deux façons différentes de se reproduire, au moins.
Mm-hmm. En conclusion, c'est des sales bêtes.
Et c'est une plante, un insecte qui suce la sève, qui affaiblit la plante, sans la tuer d'habitude, ce qui fait qu'on le maintient encore et encore pendant des années.
Bon. On a maintenant une question de Anne-Marie Gélina qui dit « Le cactus de Pâques doit-il avoir un traitement sans lumière artificielle le soir pour fleurir comme le cactus de Noël? »
La réponse à ça, c'est oui. La plante a besoin donc de jours courts l'hiver, sauf sa réaction est différente. cactus de Noël se met à fleurir tout de suite. Ça prend des jours, soit pas 12 heures, depuis à peu près 6 semaines, 7 semaines. Ça dépend de la vérité. Ça varie un peu. Lui, c'est le contraire. Il a besoin de plusieurs mois. Le jour court, il va voir comment se fleurir, lui, quand le jour commence à rallonger. Donc, c'est ça qu'on appelle cactus de Pâques, parce que lui, il va fleurir non pas à l'automne, mais quand les jours rallongent, quand le printemps est à la veille de revenir. Donc, oui, ça prend quand même des jours courts pour cette plante-là. Donc, il faut éviter d'éclairer la pièce le soir ou encore la mettre derrière une autre plante ou quelque chose pour pas que la lumière artificielle l'atteint trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Excuse-moi, Larry, mon micro était éteint. C'est pas super efficace. Toujours une question de Anne-Marie Gélina. Elle dit, « J'ai un dragonnier de Madagascar de plus de 20 ans qui meurt. J'ai tout essayé. Y a-t-il quelque chose à faire? Son espérance de vie est-elle atteinte? »
C'est pas son espérance de vie. Ça peut vivre presque éternellement. Bon, en tout cas, surtout si on considère intéresser un arbre, dans le fond, dans la nature. Probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'il a vécu sous des conditions pas idéales pendant trop longtemps. Il arrive au point où il n'est plus capable de le récupérer. Moi, je dirais, si vous voulez le sauver, vous pouvez facilement le tailler sévèrement. Si vous lui enlevez beaucoup de faibles et le placer dans l'endroit le plus ensoleillé que vous avez. Je sais qu'on dit que cette plante-là tolère l'ombre. Et les gens qui disent ça, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils essaient de nous vendre des plantes. Puis dès que les plantes tolèrent l'ombre, ils vont dire ça va à l'ombre. Mais ça tolère l'ombre, ça ne veut pas dire que ça aime ça. Une plante qui, c'est le dracéna le moins adapté à l'ombre. Les autres ne sont pas venus que ça. Donc lui, il a besoin de soleil. Donc si vous voulez qu'il soit beau, qu'il repousse, donc moi je dirais devoir le mettre dans un endroit très ensoleillé, pour donner une chance. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait, vu que vous avez l'air de voir bien soigner votre plante, mais changer de terreau, parce que ça se peut aussi que le terreau soit contaminé. Enlever le vieux terreau et le remporter dans un nouveau pour une peau au moins propre, avec un terreau frais. Et après ça, plein soleil. Et là, le faire maintenant, OK, oui, mais moi, j'aurais attendu quand même un mois, mi-février, peut-être fin février, parce que les jours rallongent, mais pas beaucoup. Et je ne voudrais pas que ça commence à pousser sous les jours courts. Fait que ça serait mieux d'attendre juste un petit peu.
Parfait. Il y a une question de Sylvie Lachance. Elle dit, « J'ai un bulbe de canna en dormance dans une boîte. Pour qu'il soit beau l'été prochain, quand faut-il que je le remette en terre? » L'année dernière, je l'ai mis trop tôt en terre. Il était énorme dans la maison.
Oui, ça pousse très vite quand ça met à pousser. Évidemment, ça dépend beaucoup de vos conditions. Si vous avez un coin chaud, ça pourrait être certainement au début d'avril. Ça serait en masse. Peut-être un coin plus frais, un peu plus tôt que ça. Mais normalement, ça prend de la chaleur, ça prend de l'humidité. On pourrait le mettre dans un sac sous un sac de plastique transparent ou une dôme de plastique transparent pour maintenir une meilleure humidité. Et là, vous le laissez commencer à pousser. Évidemment, vous emportez, bien sûr. Mais oui, ça prendrait quand même une certaine chaleur et je le ferais encore début d'avril à peu près.
Il n'y a pas d'autres questions sous le live Facebook pour le moment. Je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent à la radio que si vous voulez poser vos questions à Larry, eh bien, vous pouvez commenter sous le fil de discussion Facebook. Puis, exceptionnellement, aujourd'hui, si vous voulez poser votre question par téléphone, ce serait possible, puisque je suis en studio et que je pourrais prendre l'appel et transmettre la question. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 529-9026, 418-529-9026, c'est le poste 1. parfait. Est-ce que tu as des questions qui te sont arrivées de ton côté, Larry?
J'ai une question ici. De Lynn. Est-ce que les bulles ont une durée de vie? J'ai des bulles de tulipes qui font des feuilles, mais pas de fleurs. Sont-elles en fin de vie? Les bulles ont une vie, mais pas ce qu'on pense. Parce que la plupart des bulles, il y a des exceptions, mais la plupart des bulles fleurissent une seule fois. Produisent des rejets, et c'est le rejet qui va fleurir. Donc, normalement, la plante, c'est pas qu'une bulle vit éternellement, mais comme elle se reproduit régulièrement, fait toujours des bulles pour remplacer, puis alors elle a une floraison qui se répète, plus ou moins tous les ans. Fait que d'habitude, ça va bien. Sauf que certaines bulles ont des difficultés avec notre climat, et c'est le cas des tulipes. Ça marche très bien d'habitude pour les narcisses, les crocus, des jacinthes agréables, des choses comme ça. Pas de problème. Mais les tulipes trouvent nos étés trop humides, surtout. Trop d'arrosage. Dans la nature, les tulipes, si on regarde la distribution à travers le monde, en Afghanistan, Turquie, une zone qui est très, très sec pendant 9-10 mois par année. Et seulement humide quand la neige fond au printemps. Donc, ces plantes-là ont l'habitude d'un climat sec, 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 durant des mois, cuisant quasiment. Et après ça, au printemps, une courte période où il y a de l'humidité, parce que la neige fond, et c'est là où ça fleurit. Chez nous, on a la période où la neige fond, et les plantes poussent, il fleurit la première fois, là, le feuillage est là, la plante absorbe l'énergie pour la prochaine floraison, mais le bulbe est mal traité durant l'été parce qu'il s'est fait trop humide. Fait que le bulbe n'est pas en forme. Et donc, d'habitude, une belle floraison la première fois, la deuxième année, ça va pas si pire, mais c'est moins, et ça continue de diminuer pour la tulipe. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Il y a plusieurs choses. Mais une des choses, c'est simplement choisir des variétés mieux adaptées. Parce que j'ai généralisé un peu en disant que les tulipes poussent sous un climat sec et chaud pendant des mois de temps. Quelques variétés viennent des climats plus humides, sont plus adaptées aux conditions comme le nôtre. Et la plupart des tulipes botaniques entrent dans cette catégorie-là. Ce sont des petites tulipes, hein, pas des grosses en général. Et cela revient d'année en année sans problème. Il y a aussi les Darwin hybrides. C'est une catégorie avec des grosses fleurs. Et ces bulbes-là semblent avoir une vigueur beaucoup plus grande que les autres. Et ces plantes-là, donc, semblent réussir encore et encore. J'en ai ici, chez moi, depuis plus de 20 ans, peut-être 25 ans, qui fleurissent tous les ans. J'en ai perdu au cours des années, mais habituellement à cause d'une fausse mouvement. Exemple. Il faut laisser le feuillage intact, ou je l'ai coupé par accident, ou je l'ai brisé, ou quelque chose comme ça. Mais encore, dans des tels d'origine, j'ai encore des fleurs 25 ans plus tard. Donc, il s'agit de choisir les bonnes variétés pour avoir plus de succès, ou encore, tous les 2-3 ans, changer de tulipe, acheter d'autres, les anciennes laisser faire. C'est parfaitement légitime. Il y a plein de plantes qu'on traite comme annuelles. La tulipe pour le rentrer dans cette catégorie. Je vais passer d'autres questions, Marlène. Sinon, je vais tourner à une autre question. Question ici de Hélène. J'aurais toujours mes feuilles dans mes plates-bandes. J'évite de mettre des aiguilles de pin. Parce que j'avais entendu que c'était trop acide pour servir de paillis. Mais là, j'ai des doutes. Puis-je aussi rater les aiguilles dans les plates-bandes? Donc, Hélène. Oui, absolument. L'idée que les aiguilles de pin soient acides semble tellement bien ancrée au Québec, j'ai toujours une difficulté à faire croire aux gens que ce n'est pas vrai. Mais pourtant, si on fait le moindre recherche scientifique sur le sujet, vous découvrirez que après la décomposition, au début, quand les feuilles tombent au sol, elles sont acides, les aiguilles sont acides, mais elles deviennent alcalines assez rapidement. Et en plus, à toute fin, habituellement, le pH est un peu près de l'ordre de 6-8. 6-8, là, c'est pas assez du tout. C'est même quasiment une touche alcaline. Donc, cette idée-là que les aiguilles de pin soient acides, c'est une drôle d'idée. En plus, ça c'est déjà dès le départ, en plus, le paillis influence très, très peu le sol. Le pH du paillis, quand même que ce soit un paillis acide ou alcalin ou peu importe, c'est à peu près zéro d'effet sur le sol. Peut-être après 30 ans, il y aurait un léger changement. C'est difficile de changer le pH du sol, hein? Mais vraiment, hein? C'est pas évident et ça dure pas longtemps. Donc, on peut calculer qu'un paillis en soi ne change pas le pH du sol. Et en plus, les aiguilles de pin, c'est même pas acide. Donc, c'est deux raisons pour les utiliser. Et en passant, vous savez que le paillis le plus vendu aux États-Unis, c'est les aiguilles de pin. Ça se vend. Oui, au Québec, on les jette, mais aux États-Unis, on les vend. Donc, ça, c'est quelque chose à penser. Si vous avez un pain chez vous, je ne sais pas ça, ça peut être drôlement utile. Voilà.
Oui. On a eu une question au téléphone, ça faisait longtemps. Nicole, qui oui. a des bulbes d'iris, de tulipes, de jacinthe et de canna. Elle les garde au frigo, dans le sac en filet, puis elle les a enroulés dans du papier journal. Elle voit que ça a l'air de sécher, donc elle les asperge de temps à autre. Elle veut savoir, c'est-tu correct? Et puis, est-ce que ça va pousser quand c'est les plantes à la mi-mars? Est-ce qu'ils vont se rendre à la mi-mars, ces bulbes?
Bon, alors, il faut me répéter lesquels encore. Les tulipes, là.
Des iris, des jacinthes, des tulipes et des cannas.
OK, bon. On va présumer certaines choses. Bon, les tulipes et les jacinthes, théoriquement, vous auriez dû les planter à l'automne. Pas des bulles de printemps, sur des fleurs, ils n'ont pas de lumière, mais c'est des bulles rustiques. Ces bulles-là ont besoin de froid pour fleurir. Donc, ça se peut que ça dépérisse. Pas normal que ce soit hors de sol à cette date-ci. Faut toujours essayer de les planter au printemps. Et des fois, ça fait un peu de feuillage. Mais habituellement, il n'y aurait pas de floraison parce que le bulbe n'a pas été planté la bonne saison. Maintenant, côté des iris à bulbes, ça, c'est un plus compliqué parce qu'il y a plus qu'une sorte d'iris. Mais si c'est l'iris que je pense, l'iris dite de Hollande ou hollandais, c'est un iris qui est haut avec des fleurs bleues, violettes, blancs des fois. Cette plante-là n'est pas rustique. C'est vendu à l'automne au Québec. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas les planter à l'automne. Il fait trop froid au Québec. Mais en avant automne, c'est comme une plante de zone 6. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de les garder au frais l'hiver et essayer de les planter au printemps. Des fois, ça fleurit, des fois, pas. Et on peut toujours tenter ça. Quant au canna, le canna, par contre, il faut toujours rentrer ça. C'est une bulbe pas rustique. Donc, il faut que ce soit à l'intérieur l'hiver, à l'abri du gel. Et pour tous les bulbes, vous pouvez conserver. C'est quand même bon de vérifier de temps en temps et justement de vaporiser avec un peu d'eau. Si vous voyez que ça commence à s'assécher, ça va aider beaucoup.
Parfait. Il y a Anne-Marie Gélina qui nous parlait de son dragonnier qui n'allait pas très bien. Et oui. Elle pose la question, comment bouturer ce dragonnier-là? Est-ce qu'on le fait à partir des tiges?
Oh, bien sûr. En effet. Les feuilles ne font pas de racines. Il faut que ce soit une tige. On peut faire une bouture de tête. Dans ce cas-là, vous prenez une section de tête avec une certaine longueur de tige nue. Vous coupez. Vous appliquez normalement d'enracinement. Toujours bien parce que c'est une plante quand même un peu liée. Un peu, c'est pas vraiment du bois, mais quand même assez dur pour stimuler l'enracinement. On le fait enraciner dans un terreau humide, sous humidité. Donc, c'est un don de plastique, sac de plastique, quelque chose qui va maintenir une bonne humidité. Ça va prendre du temps, mais ça s'enracine. Ça, c'est la première méthode. C'est plus logique. Par contre, une fois que vous avez coupé la tête de la plante, il reste une longue tige. On parle d'un arbre. on peut couper les fiches en sections de peut-être 7 cm, c'est ça, 8 cm de long, et les planter couchés. Si vous plantez couché, si vous le mettez debout et vous vous inversez par l'accident, ça ne marchera pas. Quelqu'un plante comme ça, je le couche toujours comme une bio. Couché par terre, moitié enterré, et vous attendez des mois et des mois. Et éventuellement, des racines vont sortir et une nouvelle tige va sortir. Et comme ça, vous pouvez sauver votre plante de cette façon-là.
Maintenant, une question de Sylvie Lachance. Elle a un zizi, Zamio coulcas zamifolia. Une des branches jaunies et semble mourir tranquillement. Devrais-je la couper?
Oui, la réponse à ça, c'est oui. Pourquoi pas? Il faut penser que ce n'est pas des branches, c'est des feuilles. La plante fait des feuilles avec un pétiole, avec des folioles de chaque côté. Donc, ça ressemble à une fougère. Mais une feuille ne vit pas éternellement. C'est toujours une vie limitée. Des fois, c'est quelques mois. Les plantes extérieures sont dans l'été seulement. Pour des plantes comme ça, ça peut être 2 ans, 3 ans. Mais quand c'est fini, quand il a joué son rôle dans la vie, il va jaunir et mourir. Évidemment, dans la nature, les animaux vont le manger ou on n'a pas ça à la maison. Et que nous, on remplace la nature. Et on va donc aller enlever la feuille morte, c'est joli, et les plantes continuent de vivre. Donc, c'est pas très compliqué. Mais vous allez voir ça sur pas mal toutes les plantes.
Parfait. Je vais rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio au 88.3 FM. Donc, vous écoutez Le Jardinier paresseux. Et si vous voulez poser vos questions à Larry Hodgson, vous pouvez appeler au 418-529-9026. Vous faites le poste 1. 418-529-9026, le poste 1. Vous pouvez aussi poser vos questions en dessous de la vidéo qui est live présentement sur la page de CKIA FM, sur la page Facebook, pour celles et ceux qui avaient accès à un ordinateur et qui ne dédaignaient pas Facebook. Vous pouvez aller faire un tour et puis poser en commentaire vos questions.
OK. Donc, je présume que tu n'as pas d'autres questions. Fait que je vais chercher dans mon liste des questions que j'ai ici, que je suis en train de vider rapidement. Puis, question ici, c'est Colette. Puis-je diviser une saule de Salomon? Oh, absolument. Saule de Salomon est une plante vivace. Une plante, d'ailleurs, qui court pas très vite, mais quand même. Donc, c'est des rhizomes latérales, horizontales. Et à chaque nœud, une nouvelle tige sort. Et après ça, la plante fait 1 ou 2 autres rhizomes et la vie continue. Donc, tranquillement, ça prend de l'expansion. Ça devient de plus en plus large. Et vous pouvez tout simplement déterrer et replanter n'importe quelle partie. Même pas besoin d'être super précis. Hein. Si vous avez une plante qui est bien établie, qui a peut-être, je ne sais pas, une trentaine de tiges, vous pouvez simplement prendre une pelle et tac, enlever une section, la planter ailleurs. C'est sûr, la première année, il faudrait servir du arrosage pour pas que ça sèche complètement. Et avec ça, vous allez pouvoir faire une deuxième ou troisième ou quatrième saut de Salomon. Pas plus compliqué que ça. Ça serait, je pense, la question de Colette. Et donc, autre question ici. C'est Véronique qui écrit. J'ai dans mon jardin les Semicifuga ramosa atropopulia. Est-ce que c'est la même chose que la vérité médicinale Semicifuga ramosa? Et enfin, non, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'erreurs avec ces plantes-là. On appelle ces plantes souvent cierges d'argent. Vous avez un beau feuillage découpé à la base et un épi très étroit. Fleurs blanches, des fois roses pour certaines vérités. Fleurs blanches d'habitude, donc siège d'argent. La vérité médicinale pour le Québec, plante indigène, c'est le Semicifuge indigène. Donc ça, c'est une vérité qui pousse très bien chez nous, qui fleurit tôt, au mois de juillet déjà, et pose aucune complication. Et c'est la vérité qui est utilisée de façon médicinale au Québec. Pour l'autre espèce de feuillage pourpre, c'est le nom qu'on vous avait donné, Cimicifusa ramosa. Ça, c'est comme un faux nom. Personne ne sait d'où ça vient. Son vrai nom, c'est compliqué. C'est qu'en levant ce nom simplex, et son vrai nom, c'est Matsumurai. Matsumurai, c'est une variété japonaise. C'est un beau feuillage propre foncé. Il est donné Atropivoria dans les brunettes, black négligé, des noms semblables, à cause du beau feuillage. Le problème, c'est pas adapté au climat. C'est survit, pas de problème. Ça survit très bien. Et si vous n'êtes pas dans la région de Montréal, la plante fleurit presque jamais. La saison n'a pas assez longue. Et moi, j'en ai un chez moi, un black négligé depuis 20 ans. En 20 ans, ça fleurit une fois. En 20 ans. Le feuillage est beau et des boutons de fleurs commencent à se former à l'automne. Premier gel, c'est fini. À Montréal, la saison, à peu près un mois de plus. Et les gens la pleurent tous les ans, paraît-il. Mais chez moi, pas du tout. Donc, à quelque part, entre Québec et Montréal, on dépasse la limite pour les vérités à feuillage propre. Donc, feuillage propre, si vous avez une vérité à feuillage propre, cultivez-la pour le feuillage, pas pour les fleurs. Mais si vous voulez avoir des fleurs, assurément, allez avec les vérités indigènes. Le seul qui pousse bien dans ma région, c'est les vérités indigènes. Ça, c'est M. Viga Rasmussen. Ça, c'est la vérité de chez nous. Et ça, ça va bien. Et les adapter à notre climat.
Okay. Maintenant, une question. Ah, c'est intéressant, ça. C'est une question sur le kiwi arctique colomicta de Frédéric Martel. Il dit, est-ce qu'on peut planter au pied d'érable mature et espérer qu'il grimpe comme une liane?
Oui, absolument. C'est une plante très vigoureuse. Donc, peut-être pas la première année, mais ça va monter. Donc, juste pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, on parle d'une kiwi rustique. On l'appelle kiwi arctique parce qu'il est plus rustique que le soi-disant kiwi rustique. C'est une variété adaptée au climat froid. Ça vient de la Sibérie et le nord de la Chine. Donc, ce n'est pas le froid qui va le déranger du tout, pas du tout. Et elle est très vigoureuse. Donc, la première année, peut-être pas. Mais avec le temps, ce qu'on va voir, c'est que ces tiges sont tiges volubiles qui vont monter, qui vont essayer de trouver un support. C'est une rade tout près. Il va sûrement essayer de monter dedans. Dès qu'il arrive une branche qui se met là-dedans, à partir de là, il va se lancer de branche en branche jusqu'en haut de l'arbre. Jusque-là, c'est bien, n'est-ce pas? Sauf que, est-ce que vous voulez manger les fruits? Parce que si vous laissez monter en haut d'un érable, vous ne serez pas capable de les avoir. C'est le défaut. Moi, je connais un chez moi qui monte dans mon pommetier en fait, et je le laisse monter dans le bas du pommetier, puis dès que les branches arrivent plus haut que mon bras, je les coupe pour les forcer à rester où je peux les atteindre. Et c'est pas moi qui vais monter sur l'échelle pour aller chercher des petits fruits en haut d'un arbre. J'ai pas assez l'âge de faire des choses semblables. Mais, donc, vous pouvez tailler, mais moi, ce que j'ai... Si vous voulez faire grimper sur quelque chose, je vais choisir quelque chose de plus bas. Une clôture, par exemple, ce serait bien parfait. Parce que sinon, ça peut devenir haut, vous savez. Moi, je connais quelqu'un qui en a planté un au pied d'un pin blanc. Et le pin blanc, vous savez, c'est un énorme arbre. C'est rendu complètement haut, hein. Donc, ça doit facilement être 30 mètres. Donc, vous n'allez pas chercher des fruits à 30 mètres de haut. Donc, voilà.
Maintenant, on demande des précisions sur la technique de bouture que tu as mentionnée tantôt pour le dragonnier, soit de coucher la tige sur la terre. Est-ce qu'il faut mettre de l'hormone d'enracinement et garder sous dôme de plastique? Est-ce qu'il faut arroser? Et est-ce qu'il y a d'autres plantes qu'on peut bouturer comme ça? Bon, j'imagine que oui.
Oui. Ben, enfin, oui. Donc, cette technique-là va s'appliquer surtout aux arbres à tige épaisse. Et donc, dans la maison, on a des dracénas. Ça fonctionne très bien pour les dracénas. Le Diffenbachia est une coque classique. On pourrait faire ça aussi pour Aglaonema aussi. Donc, l'idée est que vous avez prélevé le bouteur en tête avec les feuilles. OK. Là, vous avez une tige nue. Si vous ne le taillez pas, une nouvelle tige va sortir en haut complètement. Ce n'est pas nécessairement ça que vous voulez. Vous voulez une plante plus basse qui recommence à zéro. Dans ce cas-là, on peut prendre la tige nue, la couper en sections, d'à peu près ça. 7, 8, 9 centimètres de long. Et coucher. Pourquoi coucher? Parce que vous savez, une fois que vous avez coupé une tige, qu'il n'y a plus de feuilles après, comment savoir quel côté va vers le haut vers le bas? On fait trop souvent des erreurs avec ça. Et si vous l'inversez, ça ne marchera pas. Ou que ce soit à l'endroit. Donc moi, j'ai toujours fait ça couché. Je prends un pot pas profond, mais un pot assez peu profond. Je mets du terreau humide, toujours de l'eau. Et là, je couche. Oui, je mets un moment d'enracinement sur la tige et je le couche et je l'enterre à moitié. Donc, il y a un peu de lumière qui rentre parce que ces plantes-là font quand même, ça ne paierait pas, un peu de photosynthèse par les tiges. Donc, on le place moitié enterré, comme si c'était une bio-bois qui avait tombé par terre, qui s'étend, qui, avec le poids, s'est enterré à moitié. Et c'est comme ça. Là, on va remettre ça dans un milieu chaud, un endroit chaud, pour que ça s'enracine. On peut couvrir avec un sac de plastique, une dôme ou autre chose, une culture. Elle est étouffée, ça donne une chance. Côté arrosage, si vous l'avez humidifié dès le départ et que vous couvrez d'un sac ou d'une dôme, il y a peu de chance, je pense, que vous ayez besoin d'arroser. C'est le genre de choses qui arrivent. Quand un cultive, elle est étouffée. Très peu d'eau est perdue. Et donc, les besoins d'arrosage sont minimes. Donc, tant que la plante est sous plastique, les chances que vous ayez besoin de l'arroser sont minimes. C'est sûr, si le terreau s'assèche, ben, c'est sûr que vous allez arroser. Mais encore une fois, si le terreau n'est pas exposé à l'air libre, il y aurait très peu de pertes. Très, très peu de pertes d'eau dans ce cas-là. Et voilà pour cette question-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Sinon, je vais parler un petit peu de la culture du romarin l'hiver. Le romarin est un arbuste. Nous le voyons comme une fine herbe. Mais ce n'est pas une herbe. Hein. Pas dans le sens... Parce que herbe, officiellement, botaniquement, c'est une tige, une plante qui n'a pas de tige ligneuse. Alors que c'est certain que le romarin est très ligneuse. C'est un arbuste, en fait. Et nous le cultivons comme annuel d'habitude, parce que ça passe pas l'hiver au Québec. Mais si on était dans le sud, même en zone sec des fois, nord de la Virginie peut-être, des fois ça passe l'hiver. Chez nous, la plante aimerait avoir un hiver frais. Donc, on devrait se placer à l'endroit où il va venir. Du foin, il met un peu de gel, mais pas de gros foin d'extérieur, où le gars est plutôt sec. Et comme ça, on pourrait peut-être garder le romarin en meilleur état. Quand on le met à la température de la pièce, ça a tendance à attraper le blanc, à perdre des feuilles, et il arrive au printemps en très mauvais état. Quand on le traite au frais, gros, frais, très frais d'ailleurs, au printemps, souvent, ça fleurit. Toute une autre réaction. Donc, voilà la meilleure façon de réussir. Est-ce que tu as d'autres questions?
Ben oui, une question au téléphone de Nicole. Elle dit qu'elle a des queues d'âne. Ils ont des grandes tiges d'à peu près 3 pieds de haut. Et puis, voilà 2 ans, elle les a transplantées. Puis depuis, il y en a certaines qui ont perdu leur verdure, qui a dit les autres sont corrects, là, mais il y en a certaines qui ont perdu, certaines tiges ont perdu leur verdure. Elle voit que ça pousse quand même. Et puis, elle demande, ben, en gros, c'est quoi les besoins de cette plante-là? Elle dit, j'ai une fenêtre... qui est plein sud, est-ce que je les place près de la fenêtre ou je les éloigne un petit peu? Côté arrosage et puis engrais, qu'est-ce que je fais? Voilà.
OK. Donc, la plante que d'âne, c'est un sédum, orpin ou sédum, qui vient du Mexique. Ça pousse sur les falaises. D'où cette croissance bizarre parce qu'elle n'a aucun tonus. Elle ne sait même pas grimper dans la nature. Elle pousse sur les branches et le soleil est vers le bas. Et elle penche vers le bas. Elle se couvre de petites feuilles en forme de jelly bean, en fait. C'est à peu près cette forme-là. Ils sont bleu craie à peu près. Donc, ça fait une très jolie plante, très, très dense. Et on peut dire que dame, ah, OK, faites être là pour décider de tel nom. Mais en tout cas, que de quelque chose, en tout cas, certain. Et comme il y a plusieurs dans le même pot, ça fait un très bel effet. Mais les feuilles tombent facilement. Elles sont très fragiles. Et donc, ça se peut que certaines tiges aient perdu leurs feuilles en bonne partie. Et il n'en repoussera pas sur le porté qui en a perdu. Ça pousse toujours à la base. Donc, la partie suspendue, le plus bas, c'est là où sont les nouvelles feuilles. Donc, si vous voulez, vous pouvez enlever ces tiges-là. Peut-être que ça va faire une plus belle présentation. Ou encore, vous pouvez toujours porter le nouveau plant, les planter en haut pour que ça vienne retomber en bas. Et on peut bouturer les sections de tiges, mais les feuilles se bouturent très, très bien. Vous avez probablement déjà des feuilles par terre, parce que quand on accroche la plante, elle en tombe toujours. Dans ce cas-là, il s'agit de les déposer sur un terreau plutôt sec. Pas besoin d'humidité. C'est un plant grasse. Hein? Pas besoin d'humidité. Et avec le temps, ça peut prendre des mois, de nouvelles plantes vont sortir et ça va recommencer. Maintenant, pour la plante en général, oui, votre fenêtre plein soleil, c'est l'idéal. C'est ce qu'il vous faudrait. La plante peut tolérer un peu moins, mais pour être heureuse, il faut ça. Évidemment, il faut l'éloigner de la fenêtre. Ça ne pas. C'est tordre un peu de foie, mais pas de grand foie. Si vous ne savez pas que ça gèle, vous éloignez la plante un peu. L'été, on peut l'éloigner un peu plus. Mais l'hiver, de rester directement dans la fenêtre, c'est bien. Comme c'est une plante qui est une plante succulente, arrosée quand la plante est sec, trop est sec, mais pas avant. Et donc, c'est-à-dire, ça peut vouloir dire, une fois ou deux semaines, ça dépend des saisons. Et donc, il ne faut pas arroser trop, surtout l'hiver. C'est difficile de se restreindre parce qu'on voit une plante et on veut arroser. Et cette plante-là, là, surtout s'il fait frais, ne perd pas beaucoup d'eau. Il faut attendre que ce soit sec, 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 avant de arroser de nouveau. Quand on arrose toujours beaucoup, par contre. Il faut laisser sécher avant d'arroser. Et température normale d'intérieur ou frais, mais pas de gel. Voilà. Avec ça, vous devrez bien réussir.
On est rendu à la fin de l'émission, Larry. On s'est rendu.
Oui, pas de problème. On a réussi quand même. On a réussi à moitié. On a fait Sequoia. On n'a pas réussi à faire Facebook Live sur mon site, mais c'est pas grave. La semaine prochaine, on va faire mieux. Voilà. Donc, bonjour, Dinesh, à tout le monde. N'oublie pas que la semaine prochaine, on va te retrouver avec l'émission, toujours à 10h le mercredi. Bye-bye. Bonjour, Dinesh. Et merci à Marlène, bien sûr.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant...
Radio Urbaine.
Merde, l'émission vient de finir.
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui.
Cessez de vous taper la tête sur les murs. Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Aude Malaret.
Il y a bientôt 5 ans, c'est l'ensemble du pays qui s'est vu endeuillé à la suite d'un attentat commis contre la Grande Mosquée de Québec ayant coûté la vie à 6 Québécois de confession musulmane. Un rassemblement commémoratif se tiendra le samedi 29 janvier en soirée. Des prises de parole seront retransmises en ligne, en direct. Des événements d'éducation et de sensibilisation sur le vivre ensemble